RMC, les grandes gueules.
Et je suis sûr qu'on va vous écouter au 32-16 réagir, parce que la nuit dernière, ce sont donc deux policiers qui ont été blessés grièvement par un riverain. Il a réussi à prendre leur arme de service.
Oui, selon les faits rapportés par nos confrères de BFM TV, en fait, tout commence hier soir vers 21h15. Il y a deux policiers qui sont appelés quai de la gare dans le 13e arrondissement à Paris par un riverain qui signale l'agression en cours de sa voisine dans les parties communes de l'immeuble. Donc les policiers arrivent sur place. Ils voient un homme de type asiatique avec un cutter à la main qui est en train d'agresser une femme. Donc les policiers interviennent. L'homme est très agité et d'ailleurs il leur intime l'ordre de le tuer. Alors, ils ne l'ont pas tué à ce moment-là, ils ont donné un coup de taser, ce qui a permis de maîtriser cet homme, et ensuite de l'emmener au commissariat. Et à ce moment-là, alors pour l'instant, c'est assez confus, hein, on ne sait pas précisément comment ça s'est déroulé, mais les deux policiers, enfin l'un des policiers s'est fait voler son arme, l'arme de service, au moment où ils étaient en train de fouiller l'individu, et l'homme en question, avec l'arme, a tiré sur les deux policiers. L'un des deux policiers est toujours entre la vie et la mort. L'autre policier est blessé, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Et l'assaillant, lui, a aussi été évacué vers l'hôpital Pompidou sans que son pronostic vital ne soit engagé. Voilà, on ne sait pas qui est cet homme. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi était-il en train d'agresser cette jeune femme? En tout cas, il était particulièrement violent et déterminé puisqu'il a tiré sur ces deux policiers. Alors, on se posera la question aussi de la sécurité de l'arme. Est-ce qu'elle était enclenchée? Donc, il y a beaucoup de questions encore sans réponse. Mais c'est vrai qu'il y a une onde de choc ce matin au sein de la police. Bien sûr, la police est assez sous le choc par rapport à ce qui s'est passé.
Oui, il y a beaucoup d'émotions parce que ça se passe dans un commissariat, qu'il arrive à prendre l'arme de service. C'est vrai que c'est toute la question du maintien de l'ordre, surtout quand on a affaire à un forcené, parce que s'ils sont intervenus, c'est quand même, comme le rappelait Olivier dans les faits, c'est pour protéger cette femme qui était quand même agressée au cutter, quoi, Frédéric.
Ben oui, les policiers ont raison d'intervenir, ils ont raison, ils ont utilisé un taser, visiblement, pour le maîtriser. Mais c'est vrai que les grandes questions qui se posent, c'est la sécurité des policiers. Et puis, j'ai lu effectivement que l'étui dans lequel se trouve cette arme est un étui sécurisé, donc sur lequel il n'est pas facile d'agir. Et en même temps, ça rappelle la difficulté du travail des policiers qui régulièrement sont exposés.
C'est l'essentiel de leur travail, hein, d'ailleurs, ça. Oui. C'est l'essentiel des interventions, c'est les violences intrafamiliales, oui. C'est maîtriser sur la voie publique des types qui sont psychotiques, qui sont sous le coup de l'ivresse,
bien sûr.
Et pour protéger les citoyens.
Voilà, quoi, et que c'est un métier qui est tout à fait noble et qui est de jour en jour exposé effectivement à des violences de plus en plus terrible, parce que quand même, l'homme en question, c'est terrifiant quand j'y pense. Dire, non seulement il s'empare de l'arme, mais il y a une intention de tuer qui est nette. Hein. Je pense que si on tire sur des individus, on sait ce qu'on est en train de faire quand même. Enfin, du moins, j'ose espérer qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de commettre comme acte. Donc effectivement, c'est très inquiétant et toutes mes pensées, évidemment, vont à la police.
Zora.
Bah, ça dit, ça raconte le quotidien des policiers qui ne sont pas... évidemment, que ce que certains se plaisent à raconter,
la police est violente,
voilà,
la police ne nous protège pas.
Voilà, exactement. Tout ce quotidien fait d'appels des citoyens pour des rixes, pour du voisinage, pour des violences intrafamiliales, etc., etc. Voilà, un faible salaire, un dévouement total à la nation, à la République. Ces gens ont décidé de travailler pour nous, en tout cas d'assurer notre sécurité. Donc, il y a plusieurs choses que j'arrive pas à comprendre. C'est donc on vient de voir qu'ils sont en insécurité, puisque l'arme a pu être dérobée. Ça, je n'ai pas d'explication. J'espère qu'ils vont s'en sortir, hein, qu'il ne va pas y avoir trop de dégâts et qui vont s'en remettre. Je leur souhaite en tout cas un bon rétablissement. Et je me dis que voilà, il faut pas jeter l'opprobre, comme dirait l'autre, sur la police, parce que
jeter l'opprobre.
Non, ouais, non, 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 je,
oui,
non, non,
l'opprobre.
Non, non. On peut leur jeter de l'opprobre.
Le niveau monte.
Ah, la décadence.
Voilà. Non, 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 mais c'est voilà. Quand ça dit que finalement cette police eh ben il faut la respecter, et c'est pas parce que il y aurait des individus au sein de la police qui se comporteraient mal qu'il faudrait à chaque fois leur taper dessus dès que certains en ont l'occasion.
C'est une mission de service public essentielle qu'il faut absolument
défendre. Mais c'est celle-là. C'est ce que je te disais.
C'est la mission du quotidien.
Des policiers,
c'est la mission du quotidien.
Et c'est de protéger une victime, une femme,
mais oui,
qui est agressée par un homme au QTR.
En plus.
Mais oui, donc c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, même s'il peut y avoir des rives policières, il peut y avoir de la violence, que la police fait un travail au quotidien absolument nécessaire dans des conditions de plus en plus difficiles. On sait l'état de nos commissariats, on sait l'état du manque de moyens de notre police aussi.
Ouais, justement, ce qui est intéressant, il y a deux aspects. Il y a l'élément de départ qui est l'agression d'une femme au cutter. Ensuite, il y a le deuxième aspect, le plus grave, le plus spectaculaire. C'est ce pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est le fait qu'il se soit emparé de l'arme et qu'il ait tiré sur deux policiers. Sauf que là, on n'a pas vraiment les éléments, les détails techniques. Non. Donc, si on revient quand même sur l'élément de départ, c'est-à-dire l'agression à l'arme blanche, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une flambée de violence à l'arme blanche et d'agression à l'arme blanche, que ce soit des agressions gratuites, que ce soit des vols crapuleux ou que ce soit dans des rixes entre bandes, par exemple. On voit les policiers disent que dans les rixes entre bandes rivales, on utilise de plus en plus un couteau qui est l'Opinel 13, qui est le plus grand modèle, le modèle géant d'Opinel qui fait 50 cm une fois déployé. Et par exemple, j'avais pris des notes avant de venir, rien qu'à Tours. J'ai fait une revue de presse donc dans la ville de Tours, une ville française moyenne. Alors, il y a deux jours, encore deux personnes blessées par arme blanche, la nuit dernière. Cela vient s'ajouter à ce qui s'est passé les nuits précédentes. Un quadragénaire a été balafré à vie à coups de cutter. Avant, un jeune homme a été scarifié sur le dos et un autre a été égorgé. Ça fait cinq. Rien que pour la ville de Tours, ces derniers jours, la nuit à l'arme blanche, t'as cinq personnes grièvement blessées à l'arme blanche dans la ville de Tours. Bah voilà. Donc, sur ça, il n'y a aucune action politique. J'ai d'ailleurs lu dans le Figaro qu'il y avait un projet de circulaire du ministère de la Justice pour dire « Oh bah oui, les gars, comme la justice est surchargée, qu'il n'y a plus de place dans les prisons, les gars qu'on arrête avec une arme blanche, eh bah, faudrait peut-être envisager que ce soit juste confiscation de l'arme et rappel à la loi, mais pas de poursuite, pas de sanction, puisque de toute façon, on est tellement surchargé. » Bon, bah voilà. Alors qu'on voit qu'il y a une flambée des violences à l'arme blanche qui vont de la rixe entre bandes au terrorisme. Aujourd'hui, le couteau est très utilisé dans les attentats terroristes, en passant par les agressions comme là dans le 13e. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose et être extrêmement ferme justement sur les questions d'armes blanches.
Oui, c'est parce que c'est l'arme que tu as chez toi.
Bah oui, qui est la plus facile à se procurer.
Mais c'est aussi la plus facile à sortir, à prendre.
Mais je peux dire,
tu sors de chez toi sur ton pâté de maison.
Oui, mais alors,
on t'arrêterait à chaque fois que la police justement contrôlerait un gars et qu'il a un couteau sur lui. Le gars, il ferait, mettons, 2 mois de prison immédiatement. Tu passes un couteau sur toi, c'est 2 mois. Et si tu commets une agression au couteau, là, c'est minimum 10 ans. Je peux te dire qu'il y aurait moins de couteaux sur soi. Les gens auraient moins de couteaux.
Qu'arrive, que se passe-t-il pour ceux qui sont interpellés avec des armes aux manifestations, parce que souvent il y a des fouilles maintenant avant les manifestations ou même avant l'entrée dans le stade, et on retrouve des armes, on retrouve des marteaux, on retrouve des couteaux. Que se passe-t-il? Rien. C'est-à-dire qu'on confisque
à la loi
et on dit merci, au revoir. Voilà, et on merci, au revoir. Donc effectivement, il y a une espèce d'impunité.
C'est l'utilisation intensive ces dernières années. Il y avait déjà des couteaux, il y en a toujours eu.
Attends, on a Abdoulaye Kanté qui est avec nous, notre ami policier que l'on connaît. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour à tous.
Bonjour Abdoulaye.
C'est vrai qu'on est saisi par ce qui s'est passé dans ce commissariat du 13e. Comment est-ce que ce forcené a pu attraper l'arme des policiers, quoi?
Bah déjà, avant toute chose, j'ai une pensée pour nos deux collègues, notamment celui qui est un peu mal en point. Et on espère tous qu'il va s'en sortir. Et effectivement, le problème, c'est que à la base, ses collègues intervenaient justement pour sauver une vie, c'est-à-dire une femme qui faillit mourir sous les coups de cet individu. Et le problème, c'est qu'en le ramenant, sachant que cet individu était hyper, hyper agité, donc du coup, en ramenant au service, au moment où il voulait le faire souffler avec l'éthylotest, donc bien évidemment, un seul collègue ne pouvait pas le faire passer parce que vu son état d'agitation, il fallait, on va dire, un minimum de protection. Et je pense, après cette enquête qui le déterminera, dans cette agitation, excitation, on va dire, assez compliquée, donc je pense que l'individu s'est saisi de l'arme de notre collègue, sachant que dans l'un des étuis où on a une rétention de sécurité et qui permet justement pour éviter ce genre de cas. Et je peux dire que c'est très, 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 très rare que ce genre de cas arrive, quoi.
À moins mais que justement, vraiment... est-ce que la protection a été mise?
Je pense que oui. Après, si c'est un individu, je vais vous dire, après, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais après, je pense qu'effectivement, on sait que là, quand ce genre de personne a eu le cran, entre guillemets, de saisir l'arme d'un collègue, c'est que vraiment, il y avait une réelle intention de tuer,
Il n'y a pas une sécurité sur l'arme ensuite?
Il y a une sécurité, mais en fait, il y a une cartouche qu'on appelle une cartouche chambrée, parce qu'il faut savoir qu'on met toujours notre arme en service, parce que nous sommes en service. Donc, il y a une cartouche qui est chambrée systématiquement. Maintenant, après, soit l'individu est bien connaisseur des armes, ou soit effectivement, c'est...
Donc la cartouche est engagée, chambrée, donc s'il tire, la cartouche part.
Ah, évidemment, parce que c'est normal, parce que nous, comme nous sommes policiers, donc systématiquement, dès qu'on on saisit notre arme et tout, donc on est prêt, évidemment, à intervenir. Donc là, dans la précipitation, je pense que peut-être, il a dû la saisir. Après, effectivement, j'ai pas tous les éléments.
Vos collègues, ils travaillent au commissariat du 13e arrondissement?
Oui, bien sûr. Ils ramènent, donc c'était une équipe de police secours, donc ils ramènent évidemment l'individu.
Mais tu vois, Abdoulaye, là, je lisais un peu les commentaires sous cette interpellation. Oui. Il y a sûrement des policiers, des collègues, là, de manière anonyme, qui disent, à chaque fois, pour nous, c'est le plus compliqué, c'est le forcené. C'est le type agité. Ce sont les interpellations sur lesquelles on sait que tout peut arriver, quoi.
Imprévisible, irrationnel.
Vas-y, Abdoulaye. C'est très, très clair. En fait, quand on regarde les chiffres, on a 15 150 policiers qui sont blessés par an. 40 policiers qui sont blessés par jour.
On n'en parle jamais. Hein.
Et le souci, c'est qu'effectivement, chaque intervention, aucune intervention n'est anodine. Et le problème, c'est que quand on est face à un forcené, parce que moi, je les entends, ces experts de canapé 2.0 qui vont nous dire, mais il fallait tirer dans les pneus, ou il fallait peut-être utiliser la manière douce, ou bien essayer de faire la désescalade. Je défie quiconque d'essayer d'interpeller un individu qui ne veut pas se laisser faire. Et là, malheureusement, on a deux collègues qui faisaient face à un individu qui, effectivement, ne voulait pas se laisser faire, sachant que ces deux collègues, au préalable, ont sauvé...
Mais Abdoulaye, il suffit de voir quand il y a des violences dans la rue, que des gens se battent, etc. Est-ce que les citoyens interviennent, essayent de séparer? Personne.
Malheureusement, le premier réflexe des citoyens, c'est de sortir le téléphone portable.
Voilà.
Et donc, violences policières.
Voilà. Et donc, le rôle du policier, c'est justement d'intervenir comme il l'a fait avec ce monsieur.
Je ne cesse de façon de le dire systématiquement.
Donc c'est facile de donner des leçons, quoi.
Peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que les policiers ne sont pas nos ennemis, les ennemis des citoyens. Ils sont là pour justement sauver les citoyens. Malheureusement, nous en avons deux au péril de leur vie qui, j'espère vraiment, je vous le dis parce que j'ai un peu d'émotion, parce que j'espère vraiment que notre collègue va s'en sortir, parce que c'est quand même, au-delà d'un policier, c'est un humain, c'est un père de famille. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est juste simplement faire notre travail et rentrer en vie.
Mais surtout, ce qu'il faut souligner, Abdoulaye, c'est aussi que lorsque vous, policiers, vous intervenez, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, sur qui vous allez tomber.
Mais on ne connaît pas les individus.
Visiblement, la personne est à la fois dangereuse et dérangée, je pense, on peut le dire. Mais ça, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que on vous appelle.
C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que dès qu'il y a une action de police et qui est filmée, etc., qui est balancée sur les réseaux sociaux, je demande toujours donc faire très attention, parce qu'on ne sait pas quels sont le avant ou l'après. Chaque intervention. Aucune intervention n'est anodine. Et on a une preuve, encore une fois, que des policiers qui vont sauver une vie, et à l'issue, on ne sait pas quelle sera l'issue finale. Et là, malheureusement, ce qui est encore plus frappant, c'est que ça s'est passé dans notre enceinte,
Ils ont sauvé cette femme.
Malheureusement, c'est en second plan, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, encore une fois, on espère que nos collègues vont s'en sortir et l'enquête après dira le reste.
Et c'est vrai ce que disait Abdoulaye, 15 000 policiers par an, c'est
beaucoup.
C'est énorme. C'est énorme, 15 000 policiers par an.
Il faut rappeler que c'est un métier dangereux.
Et on l'oublie, c'est vrai que souvent, on met en avant... la critique de la police, mais c'est vrai que...
Mais Abdoulaye, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, comme on le soulignait avec les chiffres que donnait Jean-Loup Bonamy, c'est qu'aujourd'hui, c'est la question du couteau et de l'arme blanche. Tu vois, avec Olivier, on était à Marseille, comme tu le sais, on a pu discuter avec certains de tes collègues qui étaient en civil au milieu de la foule, et c'est ce qui les inquiétait le plus, c'était ça.
C'est le type un peu,
dérangé qui est parti le matin avec ne serait-ce qu'un Opinel ou quoi que ce soit, et qui d'un coup, parce qu'il y a du monde, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a l'effet de masse,
il a pris des stupéfiants.
Le type décompense et à ce moment-là sort son arme. Enfin, sort son couteau.
Aujourd'hui, en fait, si tu veux, il y a une forme de banalisation sur le couteau. Si on le voit, quand tu vois qu'il y a quand même des gamins, même sur Snapchat, des trucs comme ça, etc., qui s'affichent en entrant dans un collège avec un couteau dans leur sac pour essayer d'intimider. Et le couteau, aujourd'hui, c'est une arme que tu peux trouver partout. Donc, c'est très difficile de légiférer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu as des individus qui vont balader avec des couteaux.
Mais c'est l'américanisation de la société. Sauf que, comme on n'a pas d'armes comme aux États-Unis parce que c'est illégal, on a des couteaux. Voilà. On n'a pas d'armes à feu, on a des couteaux.
Mais Abdoulaye, tu te vois avec tes collègues contrôler dans la rue, faire de la palpation simplement pour savoir s'il y a une personne à un couteau, c'est pas possible.
Bah, disons que le contrôle, c'est pour ça que tu vois, la question du contrôle d'identité a été remis en cause plusieurs fois, mais je le dis encore une fois, c'est que quand on contrôle, c'est que déjà c'est sur réquisition de procureur, c'est que la loi nous l'autorise, et effectivement, forcément, donc on va essayer de palper évidemment soit face à un, comment dire, à un événement, etc.
Oui, mais d'accord. Mais Abdoulaye, quand par exemple on est palpé à l'entrée d'un stade de foot, et parfois les policiers vont tomber sur un couteau, qu'est-ce qu'il arrive pour la personne qui portait le couteau? On lui confisque son arme, et voilà.
C'est que l'excuse souvent, c'est de dire, ouais, écoutez, voilà, c'est pour couper mon sandwich ou un truc comme ça, et malheureusement, donc vu qu'il y a une foule et tout, donc je pense que maintenant, malheureusement, avec l'État, donc on peut pas faire autrement, donc on met de côté et la personne rentre, c'est-à-dire qu'on lui confisque, tu vois. Et j'ai envie de dire aussi que toute personne
on a le droit de se balader avec un couteau.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, c'est interdit.
C'est interdit.
Oui, mais alors, même un Opinel.
C'est comme
tu pars en pique-nique, tu fais comment?
C'est comme une. J'ai envie de dire, tu peux le laisser dans ta glacière ou chose comme ça, mais pas sur toi.
Aujourd'hui, tu peux.
C'est tout le paradoxe. C'est parce qu'on a des gens bien intentionnés. Mais qui disent, moi, je suis rassuré. Tu vois, je suis rassuré d'avoir un couteau, Abdoulaye.
Si jamais,
c'est quand même l'idée la plus absurde.
Oui. Exactement. Moi, je peux pas savoir si t'es quelqu'un de bien intentionné. De base, je ne te connais pas. Et du coup, si toi, tu dis, écoutez, je suis bien intentionné. Oui, mais moi, je ne crois que.
Mais il y a des gens qui se protègent, qui se disent, j'ai un couteau pour me protéger.
Il y a la police pour ça. Et le 17.
Abdoulaye, je te remercie d'avoir été quelques instants avec nous. Merci, Abdoulaye, qui est policier à Paris. Écoutez, venez, continuez d'en discuter avec nous au 32-16, justement. Non, oui, non, pour savoir où on en est.